Bien, eh bien, donc nous continuons un peu d'ailleurs sur la lancée de la table ronde précédente avec vivre en bonne intelligence les hommes, la terre, l'univers et le reste. Alors nous retrouvons Jacques Arnoux qui est donc pour, je ne sais pas si ça avait été dit, mais je suis très impressionné par le, on en parlait il y a 30 secondes, les différents centres d'intérêt de Jacques, ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences, docteur en théologie. C'est assez passionnant. Votre dernier titre, c'est Le Rire d'Icare, c'est bien ça, paru en 2013. Alors, Sylvie Bérard, qui est à la fois romancière multiprimée, notamment pour une de ses œuvres, et théoricienne, et notamment en rapport à la création littéraire. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, notamment sur ses travaux sur l'énonciation, par rapport, ne serait-ce que l'intitulé. De la chose. Loïc Leborgne, qui, après avoir remarquablement commencé en science-fiction avec une trilogie jeunesse, Les Enfants d'Éden, poursuit à la fois en jeunesse et en adulte avec un récit terrifiant paru en 2008, Je suis ta nuit, qui n'a rien à envier à Stephen King, un très très beau texte, et qui, dans son actualité récente, a publié Hystérésis au Bélial. Jean-Marc Ligny, alors lui qui est carrément au cœur de notre problématique, parce que c'est une question qui lui tient vraiment à cœur, qui nourrit même de nombreux travaux qu'il a toujours consacrés à la question. Alors j'en retiendrai deux, il reviendra sur les autres qui m'ont marqué pour cette table ronde, qui sont Aquatrademark, et, on dit Aquatrademark ou Aquatm, hein, oui voilà, et Exode, paru tous deux chez La Talente. Et enfin, bien sûr, Norman Spinrad, dont est un des plus grands auteurs américains contemporains, assurément, dont peut-être l'une des grandes préoccupations qui sous-tend toute son œuvre est la notion de liberté, liberté de l'individu, liberté par rapport à ses choix, liberté relativement à la société. Toutes ses œuvres sont une pierre à la réflexion sur les rapports qu'entretient le sujet et le tout collectif. Pour ma part, bien sûr, il y a Jack Baron et l'éternité et Rêve de fer, mais j'ai une grande admiration pour son roman Les miroirs de l'esprit, qui est l'un des grands romans américains du XXe siècle, selon moi. Voilà. Donc, concernant l'intitulé de notre table ronde, il est volontairement, j'espère en tout cas, flou, puisqu'il est à la fois très précis et vague. Je vous le redonne. Vivre en bonne intelligence, les hommes, la terre, l'univers et le reste. Alors, vivre en bonne intelligence, ça a un côté réflexif, rationnel, mais aussi moral. Quand on dit il faut vivre en bonne intelligence, on fait appel à la raison et au bien des gens. Alors, est-ce que vous pensez tous, c'est une question que j'adresse à tout le monde, un par un pour démarrer, est-ce que vous pensez que réfléchir à notre rapport au monde, à l'univers et au reste, c'est à la fois une question de morale et d'intelligence? Donc, je vais faire peut-être Sylvie, honneur au... Soyons vieux jeu.
Sur le vieux continent.
Oui, très bien.
je vais répondre oui. Question de morale, question d'intelligence. C'est certain que aborder l'autre, on le fait. On peut le faire de façon cérébrale, on peut le faire de façon tout à fait mathématique, calculatrice. On peut faire essayer de comprendre intellectuellement l'autre. Mais c'est certain aussi qu'il y a la question morale, effectivement, mais il y a aussi la question simplement, pas nécessairement, parce que la morale aussi, c'est aussi un consensus social. Alors, qu'est-ce qui est moral? Ce qui est moral pour nous n'est pas nécessairement moral de façon universelle. Je sais qu'il y a des débats sur la morale et sur l'éthique qu'on pourrait lancer, mais il y a aussi, l'approche plutôt avec les je dirais pas les sentiments ou l'intuition, mais en fait, quelque chose qui est en deçà de l'intellect et qui n'est pas nécessairement socialement moral, mais qui fait partie de ce que intrinsèquement on juge bon ou mauvais, ce qui peut être différent de ce qui est jugé bon ou mauvais socialement.
Mais vous, justement, par rapport à toutes vos réflexions sur le langage, vivre en bonne intelligence, ça, qu'est-ce qui parle d'abord aux gens si je dis ça, vivre en bonne intelligence?
Vivre en bonne intelligence, c'est accepter de ne pas penser pour l'autre, accepter que l'autre pense différemment. Et c'est ce que je fais dans mon œuvre, en fait. Vous parliez de la question de l'énonciation. Et pour moi, c'est très important aussi, d'une part, de laisser la parole aussi à l'autre, de laisser par exemple, puisqu'on parle de science-fiction, si on représente des extraterrestres, pour moi, il est important de laisser la parole, de laisser un espace de discours à l'autre. Mais en même temps, il est important aussi de ne pas projeter des réflexes humains ou des réflexes liés à notre propre société aussi. Alors, ça se traduit pour moi de cette façon-là, au niveau de la parole, au niveau du discours, au niveau de l'espace des idées.
Norman, justement, oui.
I don't know if I should say this in English or say this in French or say it in dolphin. Parce que j'ai essayé en français, pardon. Si ça ne marche pas, dites-moi si ça ne marche pas. À mon avis, par exemple, le dolphin et la baleine, ça, les 12 espèces, avant en conscience dans un niveau humain, mais totalement différent, parce que c'est pas un conscience, c'est pas une langue. Pas une langue pour faire une traduction de dolphin ou baleine. Non, parce que la conscience, à mon avis, j'ai écrit une petite histoire, une nouvelle de ça, la musique de la sphère, récente. Et l'idée, et je crois que c'est correct, la science de faire en traduction en langue dolphin, en langue baleine, dans humaine, ça ne marche pas parce qu'à mon avis, le sensorium d'un baleine ou un dolphin, c'est un sensorium avec une domination sonore. Et ça, c'est une conscience. Vous avez une conscience direct, pas seulement dans l'extérieur, mais l'intérieur aussi. Donc, c'est pas un concept humain, en espèce de télépathie. Oui? Vous avez un direct, si vous êtes un Doppler, vous avez une directe conscience avec son ami, son autre dolphin, comme une espèce de télévision, mais trois-dimensionnelle, comprend l'intérieur de votre ami aussi. Donc, avec un sens sonore, si vous êtes un dolphin, vous avez une connexion directe à un niveau ça, mais aussi si vous avez une possibilité de faire une répétition d'une chose qui vous êtes vous persona, vous avez aussi la possibilité de créer en fiction en sonore, comme un télé trois dimensionnel comme ça. Et je crois, pour cette raison, je crois que le dauphin et la baleine n'avaient pas une langue de notre concept de langue parce que son sensorium c'est différent et créé en espèce de notre concept de ça télépathique. Voilà.
Jacques, justement, Norman soulève un problème qui est très important, qui est que, effectivement, l'intitulé dans Bonne Intelligence, c'est l'intelligence humaine. On sait qu'il en existe d'autres, qu'elle s'exprime autrement. Est-ce que, à travers votre travail, votre vécu, Est-ce que vous pensez qu'on peut justement appréhender, on arrive à se détacher de nos propres concepts, de notre intelligence pour appréhender une autre façon de voir, une autre façon d'être dans le vivant, dans sa multiplicité?
Non, je ne pense pas, parce que c'est vraiment notre intelligence au sens le plus large possible, avec notre imagination, notre savoir, enfin, le mot d'intelligence ici apprend sans doute en sens le plus large. J'avais envie d'aller faire encore un pas au-delà, si j'ose, de mon prédécesseur. Quand vous avez lancé la question, je pensais à ce que je lisais récemment sur ceux qui ont imaginé d'autres univers que le nôtre et les conséquences éthiques qu'ils avaient déjà repérées quant à la possibilité d'autres univers. Vous connaissez les multivers, les plurivers, etc. Mais il n'y a même pas besoin de penser aux conceptions récentes. Déjà Nietzsche, quand il pense à l'éternel retour, c'est une manière de dire que les univers se suivent. Et tous ces penseurs ont immédiatement pensé aux questions d'éthique. Comment vivre, nous, aujourd'hui, en sachant qu'au moment où nous parlons d'autres univers où se passent aussi des utopiales dans une ville semblable à Nantes, mais où peut-être des choix sont différents. Peut-être que dans un autre univers, il y a un Jacques Arnoux, mais qui a un coup de folie, se lève et va vous donner une gifle. Bon,
inconcevable.
C'est concevable.
C'est de la science-fiction.
C'est de la science-fiction. Et tous ces auteurs se rendent compte, mais si donc il y a d'autres univers suffisamment semblables, mais avec des choix moraux, avec un vivre ensemble différent, que devient la valeur de mon acte à moi ici? Ou si cet univers peut être répété? Et c'est déjà le cas de Nietzsche, c'est même quelqu'un comme Sakharov l'a pensé aussi, ou aujourd'hui, on est un peu dans la même chose, c'est-à-dire que là on est en train, non seulement je ne pense pas seulement aux dauphins et aux baleines et à la manière différente d'appréhender la même réalité, mais même d'autres réalités. Et on revient là en lien à ce que nous disions dans la précédente table ronde, c'est-à-dire que tout ce rôle de l'utopie, de la science-fiction, est en fait un rôle assez vertigineux. Et en même temps, je trouve, nous souligne notre singularité. En tout cas, moi, la leçon que je tire de ça, c'est pas, au fond, si dans un autre monde, un Jacques Arnoux est en train de se lever et est en train de vous gifler, je prends un acte un peu agressif, hein, bon, moi, j'ai pas envie de répéter ce geste-là, et j'ai envie que dans ce monde-ci, nous puissions discuter en bonne intelligence.
Oui, bien sûr, et je me réjouis d'ailleurs. Mais justement, vous l'avez bien dit, il y a cette obligation de penser l'ici et maintenant. Et je pense, Jean-Marc, c'est un de tes grandes exigences d'écrivain qui est de t'astreindre à affronter les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes réels, là, d'avoir peut-être renoncé à la facilité d'autres mondes et d'autres époques pour. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'écrivain, tu consacres ton intelligence et ton talent à penser des problèmes concrets et pas à t'échapper? Qu'est-ce qui motive, notamment, je pense à tes deux derniers grands romans? Tu fais pas le plus simple.
Je dirais ce qui me motive en premier lieu, c'est la volonté un peu acharnée chez moi de comprendre le monde, de voir, d'essayer de le démonter et de voir comment il fonctionne, sans forcément apporter un jugement d'ailleurs, parce que aussi bien Aqua qu'Exode ne dénoncent pas, ils décrivent, je pense, hein, plutôt. D'écrire le monde tel qu'il est, comprendre comment il fonctionne, comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a en fait effectivement si peu d'harmonie et d'intelligence dans le monde, hein, parce que pour revenir au sujet du débat, comment ça se fait qu'on puisse en venir là, quoi. Nous, être soi-disant supérieurs, dominant la planète, comment peut-on avoir un tel manque d'intelligence, un tel manque de respect, un tel manque de discernement pour, en fait, mettre le feu à la maison et puis continuer à se battre pendant que la maison brûle, quoi. C'est quelque chose qui m'épate, qui me sidère et que je trouve extrêmement intéressant à étudier. Et maintenant, j'arrive à une phase où j'en suis à me demander justement comment apporter un peu plus d'harmonie dans ce monde, quoi. Ça va être le sujet du troisième volume de cette trilogie climatique.
Où ce qui reste, le dernier est très noir. Hein,
extrêmement noir et laisse peu de place à l'espérance. Et je ne veux pas conclure sur une note aussi noire et pessimiste, parce que l'être humain est capable du pire, mais aussi du meilleur, heureusement. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui pour en débattre, d'ailleurs. Et donc, essayer de voir comment, après avoir atteint le pire du pire et vraiment le fond, l'humanité peut rebondir, peut-être justement vers plus d'harmonie. Moi, je dirais que le mot harmonie a un côté, en fait, utopique d'abord, un peu christique également. Et j'emploierais plus le terme d'équilibre, voire de respect. L'équilibre existe dans la nature, c'est une notion universellement partagée, je pense, entre tous les êtres vivants. Mais cet équilibre dans la nature n'implique pas ni harmonie ni respect. Je veux dire, je pense que le lion n'a pas de respect pour la gazelle qu'il tue, les fourmis n'ont pas de respect pour les pucerons qu'elles élèvent. Voilà, les prédateurs n'ont pas de respect pour leur proie en général et le lierre n'a pas de respect pour l'arbre qu'il est en train de tuer en poussant dessus. Le respect est une notion purement humaine qui nous permet à nous justement de pouvoir non seulement l'étendre aux autres humains, respecter l'autre, déjà arrêter de lui faire la guerre, et aussi respecter le vivant dans son ensemble, c'est-à-dire arrêter de détruire la planète. Et ça, c'est une notion purement volontariste et consciente chez l'être humain. Alors que l'harmonie, pour moi, ce serait plus... pour moi, c'est presque un terme religieux, harmonie, quoi. On peut la concevoir entre deux êtres vivants, enfin, entre deux êtres humains, une forme d'amour, une forme d'union plus ou moins fusionnelle. Là, oui, bon, l'harmonie entre tous les êtres, c'est christique pour moi, quoi. Donc, forcément utopique et, à mon avis, irréalisable. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité n'est qu'une longue suite de luttes, de bagarres, de conflits, de domination, d'esclavagisme. Et maintenant, on en prend de plus en plus conscience, maintenant que notre vie même, notre existence même... est plus ou moins menacée du fait de ce qu'on a fait subir à la Terre, qui elle s'en remettra, hein, de toute façon. Pour la Terre, on n'est qu'une péripétie. Hein. Justement, je pense que ça peut nous amener à cette prise de conscience globale que on ne peut pas vivre dans un état de déséquilibre permanent.
Et justement... c'est très joli cette distinction que tu fais entre respect et harmonie, entre le fait que le respect c'est typiquement humain. John Stuart Mill disait justement que la nature elle n'est pas respectable si on ne veut pas la respecter, notamment par exemple parce que l'inceste est un phénomène naturel, donc on ne peut pas prendre en bloc la nature comme élément respectable. Et Loïc, ce qui m'intéresse dans ton travail, c'est un peu dans la foulée de ce que vient de dire Jean-Marc, c'est ce souci que tu as aussi bien en adulte qu'en jeunesse, c'est important, hein, ton travail jeunesse, de montrer la nature sous toutes ses facettes, sous ce qu'elle a de plus beau et de plus admirable, mais aussi l'horreur brute, pure qu'elle peut présenter. Pourquoi ce souci justement d'être aussi sincère dans la description de la nature?
Je reviens un petit peu sur ce que disait Jean-Marc, mais aussi sur la notion d'harmonie, d'intelligence. J'essaie, je crois, toujours de ramener les choses à des éléments très concrets. C'est vrai qu'on peut bâtir des belles théories, des belles utopies. En réalité, pour prendre l'exemple des relations entre l'homme et la nature, je crois que l'essentiel, c'est quand même la connaissance du concret. Je veux dire par là, par exemple, qu'on a des grandes théories sur l'écologie. Mais combien d'enfants savent différencier un chêne d'un hêtre ? Je me souviens que moi, quand j'étais enfant, on allait dans des forêts avec, j'avais un instituteur formidable qui nous montrait ce genre de choses, qui nous faisait toucher la forêt. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer une harmonie si on perd cette connaissance. Alors, dans Hystérésis ou dans d'autres histoires, la connaissance, justement, a été perdue par nos générations. Ça s'est mal passé. De là naît le mythe, les légendes, puisque quand on perd cette connaissance concrète de base de l'arbre, par exemple, hein, puisque l'arbre est un personnage fondamental dans cette histoire, en réalité, on se réfugie effectivement dans la légende ou le mythe, ce qui peut représenter des dangers. On n'en est pas loin. Hein. Parfois, on bâtit des mythes sur la nature aujourd'hui, alors qu'elle est avant tout quelque chose, à mon avis, qu'il est important de toucher, d'aller voir. C'est important d'entrer dans une forêt, dans un champ, pour bien comprendre. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer une intelligence avec le monde vivant sans aller le voir, le rencontrer. Et donc, ça revient à la notion d'écoute qu'on peut retrouver par rapport aux autres humains et puis par rapport à notre environnement. Est-ce qu'on écoute suffisamment notre environnement? Pour l'écouter, on a 5 sens. Et puis peut-être qu'on en aura d'autres par le futur. Je travaille actuellement sur la réalité amplifiée, par exemple, qui pourra peut-être nous amener des éléments complémentaires intéressants. Alors là, je ne parle pas du château de Versailles, parce que c'est vrai qu'on voit souvent la réalité amplifiée avec des industries, avec des monuments. Il serait vraiment intéressant qu'on puisse avoir ces balbutiements de réalité amplifiée qui vont se développer, par exemple en se promenant dans une forêt. Je trouverais vraiment intéressant que tous ces sens nouveaux, ces informations nouvelles accèdent à nous. Ça nous permettra de peut-être mieux écouter, de savoir si tel arbre se porte bien. Bref, je reviens toujours à des choses très simples, en fait, dans mes histoires. Bon, je vis en pleine campagne, j'ai fait beaucoup de randonnées, donc j'aime bien passer des grandes théories au retour à quelque chose de très terrestre, en fait.
Alors, ce qui se détache de ce que tu viens de dire et de tout ce qui a été dit, moi, c'est une question que je me pose, que je vous pose. Comment se fait-il que, intellectuellement, on sait, ça relève du raisonnement, que il est dangereux et fatal de mépriser la nature au sens large, affectivement, sauf à être un cas particulier, on a viscéralement l'amour de la nature, enfin j'espère en tout cas, on peut le penser. Alors comment se fait-il que l'intellect et l'affectif étant dirigés vers le même but, on foire tout, on loupe tout? Comment vous l'expliquez alors que toutes les opérations de l'esprit sont convoquées vers le même but, ça ne marche pas.
Je glisse juste un petit mot, tu parles bien de notre société, suis aussi très passionné par d'autres cultures.
C'est
vrai que les Guarani ou les aborigènes ne voient pas du tout les choses
Manière. Alors là, mille fois, oui, c'est une réflexion occidentalo-centrée, tout à fait, c'est très juste.
Mais je pense que ça part aussi d'une meilleure compréhension de ce qu'on entend par nature et culture aussi. On dit que, bon, en tant qu'humain, oui, on aurait ce qui nous distinguerait peut-être des autres espèces, ce serait ce respect pour la nature, mais en même temps, moi qui viens de grands espaces, mettre le bois de l'orignal sur le toit de la voiture pour montrer qu'on a triomphé sur la nature, quant à moi, ce n'est pas très respectueux. Par contre, évidemment, dans certaines cultures amérindiennes, rendre hommage à la proie parce qu'elle vient nourrir la famille, c'est de l'ordre du respect. Et on parle de vivre en bonne intelligence avec d'autres espèces, même d'autres planètes, d'autres nations, d'autres individus, mais il faut aussi vivre en bonne intelligence à l'intérieur de soi aussi. Et vivre en bonne intelligence, c'est aussi peut-être essayer de comprendre et gérer, accepter aussi les contradictions. Moi aussi, j'aime les documentaires animaliers. Je pense à un documentaire que j'avais vu d'une lionne, je pense, qui attaque un singe femelle, un guenon et son petit bébé. Et balaie la mère, tue la mère, secoue la mère, la mange et ensuite adopte le petit bébé. Et on fait ça aussi. On décide soudain que certaines espèces peuvent être sacrifiables et certaines autres espèces sont nos petits animaux de compagnie où on peut transposer ça aussi à d'autres niveaux culturels. Donc, et ça fait partie aussi de notre nature. Il y a quelque chose de probablement de très animal là-dedans aussi. Et je pense qu'on doit gérer aussi ces rapports-là avec notre propre côté autre, justement, avant de penser vivre en bonne intelligence avec d'autres cultures.
Norman, justement, s'il y a bien quelqu'un qui a réfléchi à la bonne intelligence entre êtres humains, je pense à Jack Baron ou au miroir de l'esprit, au danger et aux possibilités de l'intelligence, de l'homme avec l'homme, c'est bien toi. Qu'est-ce qui te fascine et te fait peur dans notre intelligence humaine?
Well, à mon avis, c'est une question de qu'est-ce que c'est intelligence et qu'est-ce que c'est conscience? Intelligence, c'est quoi? Peut-être un point de vue scientifique, en langue, comme ça. Mais conscience, c'est quoi? Ça, c'est plus difficile de comprendre. Et, par exemple, maintenant, nous tous connus que peut-être c'est 17 milliards de planètes dans la galaxie avec, on dit, la zone Goldilocks. 17 milliards. Et même aussi, maintenant, certaines choses à Mimas, à l'une de Saturne, je crois, avec un océan contre, sur le surface. Peut-être c'est beaucoup milliards de possibilités de vie, même peut-être une espèce qu'on nous considérait la conscience. Mais c'est la même chose comme l'intelligence. C'est compliqué. Nous avons un chat, par exemple. Le chat a une personnalité. C'est une vraie personnalité. Peut-être que ce n'est pas très bien, mais une personnalité. Ça, c'est sûr de moi en conscience. Mais ça, c'est ça en intelligence dans un niveau humain ou non. Peut-être que c'est autre aliens dans la galaxie. So, des humains, voilà, conscience, mais pas intelligente. Et la question morale, c'est très difficile, à mon avis. Si vous êtes un vegan ou un végétarien, c'est simple. Mais si jamais mange le viande, c'est une autre chose. Mais aussi, c'est des animaux avec une conscience, des tigres, des lions, qui, si avaient l'idée de manger nous. C'est une chose très difficile morale pour moi. C'est pas facile. Je crois que des animaux d'un certain niveau avant en conscience de son propre esprit ou chose comme ça, on en est. Mais peut-être pas en intelligence, il n'est pas français, il n'est pas anglais, il n'est pas allemand, n'est pas en envie intellectuelle comme nous, mais avant, on conscience lui-même, en conscience émotionnelle, en vraie vie, en vraie personnalité. Et ça, c'est une chose, pour moi, c'est très difficile parce que je ne suis pas un végétarien maintenant. Mais si nous donnez-moi en croyant, peut-être ne mange pas, peut-être mange, C'est une chose très difficile. La différence dans une conscience et une intelligence. C'est possible en faire, par exemple, une autre intelligence, en intelligence artificielle. Hein? Mais si, c'est ça, en conscience ou non? Ou c'est une émulation d'une conscience? Et moi, je n'avais une bonne idée spécifique de la différence dans une conscience ou une intelligence.
Alors, oui, il est certes très difficile de comprendre des intelligences interspécifiques. Maintenant, tu l'as évoqué, l'intelligence artificielle, en voilà une autre. Mais tout simplement, l'intelligence intraspécifique pose déjà beaucoup de problèmes. Jean-Marc, je pense par exemple à certains de tes romans comme Jihad, qui fait que comment peut-on demander à une même intelligence d'être sujet d'observation et objet d'observation? Comment ça se fait que c'est la même intelligence qui va faire et dénoncer, observer et critiquer, par exemple, un roman comme celui que je viens d'évoquer pose de gros problèmes de morale dans ce qu'il décrit, mais dans le fait de le décrire aussi. Quel est le recul que tu prends quand tu attaques, par exemple, un problème moral dès lors que c'est ta morale qui l'aborde?
Je dois avouer que quand j'ai écrit un roman comme Djihad, qui est évidemment éminemment politique, la morale du personnage principal, je dirais qu'il se la forge un peu lui-même, quoi. Je ne vais pas lui inculquer, enfin, évidemment, je vais inculquer des principes moraux de base, parce que mon héros, je le définis à la base, mais après, sur quelques principes, sur quelques le rôle qu'il a joué va en fait le définir en tant que personnage, et il va lui-même se forger sa propre morale. Jamal dans Djihad n'est pas idéaliste, c'est pas un guerrier qui va défendre un idéal de justice, de paix, de liberté, etc. C'est juste, il vient juste se venger de la mort de sa sœur. Il vient en France et bon, il s'avère que sa vengeance va servir ou desservir des intérêts plus larges et peut être utilisé, ensuite exploité par des luttes idéologiques diverses et même contraires, simplement parce que sa force, sa puissance de combattant, en fait, est intrinsèquement intéressante, quelles que soient ses pensées, ses préjugés, ses idéaux, dont d'ailleurs personne n'a rien à fiche de ses idéaux, quoi, dans Djihad, en fait. Et lui, il va s'inscrire dans un combat dont il va prendre conscience, finalement, assez tardivement, et qui va assez peu le concerner. Il est aussi peu concerné par le fait que la France est aux mains d'un pouvoir fasciste, ou du moins d'extrême droite, que par le fait qu'il y a des groupes islamiques extrémistes qui veulent l'utiliser à la fois pour lutter contre ce pouvoir et voire le remplacer, parce que, bon, je dirais qu'entre l'extrême droite et l'islamisme radical, les différences ne sont pas si grandes, au niveau des résultats, en tout cas. Et donc voilà, la morale, pour moi, n'est pas un fil conducteur de mes romans a priori. Elle va en découler plutôt. Ce que j'essaye d'abord enfin, je pars d'une idée générale ou d'une interrogation générale. Bon, en l'occurrence, pour Djihad, c'était la montée du Front National, la montée des intégrismes religieux, en l'occurrence islamique, mais ça pourrait être chrétien aussi, le résultat serait le même, hein. Et ça a été une inquiétude, une interrogation, donc de là je me suis dit comment, que deviendrait une France aux mains du Front National, Et donc, que deviendraient ces groupes islamiques armés, parce que c'était dans les années 90 que je l'ai écrit. Bon, c'était précurseur de ce qui existe actuellement, hein, avec le JIA en Algérie, etc. Et voilà, en poussant le bouchon un peu plus loin, comment ça se passe, quoi. J'ai toujours une espèce d'approche, je dirais presque d'entomologiste. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai une approche presque entomologiste de comme si j'observais deux sociétés de fourmis, et puis bon, on va modifier un élément et voir comment elles gèrent cet élément. Et on ne va pas faire des préjugés moraux, savoir si elles s'occupent bien ou mal d'elles-mêmes ou de leurs voisines, etc., etc. Et après, bon, bah, mes personnages, évidemment, ont une histoire, il va se dérouler une aventure, et leur morale à eux, c'est l'histoire qui va leur forger, en fait. Et je pense que c'est comme ça dans la vie. Bon, notre morale en tant qu'être humain nous est forgée par l'éducation qu'on reçoit et par l'expérience de la vie qu'on éprouve. Et elle est très fluctuante. Elle peut, je veux dire, on a rarement une morale figée de l'âge de 10 ans jusqu'à notre mort, quoi. Notre morale évolue, notre éthique évolue, notre sens des responsabilités et du respect dont je parlais évolue également. Et donc voilà, et je voulais aussi un peu rebondir sur ce que avait dit Loïc tout à l'heure, ou c'était toi peut-être, à propos de comment on peut à la fois respecter, aimer la nature et la détruire comme on fait, quoi. Et moi je pense que c'est ce respect et cet amour de la nature qu'on a, il est assez récent en fait, en tant que sentiment général. Il y a toujours un amour de la nature chez des individus en particulier, mais on a eu des siècles et des siècles de civilisation judéo-chrétienne qui nous a imposé la maîtrise de la nature. L'homme était au sommet de la création et devait dominer la nature. C'est les préceptes judéo-chrétiens de base enseignés dans la Bible. Et donc, c'est finalement assez récent qu'on commence à se défaire de ce précepte-là et à considérer que, ben non, on n'est pas le sommet de la création, qu'on fait partie de la nature comme n'importe quel autre être vivant et que bon, si on rompt cet équilibre, on le paye cher. Tout comme un animal peut rompre un équilibre, une espèce animale peut devenir proliférante et s'autodétruire par sa prolifération parce qu'elle bouffe tout autour d'elle, ou au contraire, elle peut être en voie d'extinction parce qu'elle va être dévorée par d'autres prédateurs, introduits artificiellement ou pas d'ailleurs, voilà, la nature n'est pas un équilibre permanent non plus, c'est une lutte aussi permanente pour tendre vers un équilibre. Et nous autres êtres humains, on commence à se rendre compte depuis... je dirais finalement à peine un siècle, hein, peut-être un demi-siècle, que nous aussi on fait partie de cet équilibre en général et qu'on doit tendre vers cet équilibre. Jusqu'alors, la position de l'homme c'était on domine, on maîtrise, on contrôle, on asservit, on exploite, parce que la nature est à notre service, quoi. Et c'est ça toute la différence. Bon, j'ai été un peu long, excusez-moi.
Justement, depuis le début de la discussion, on oscille entre intelligence humaine, autre intelligence, on intraspécifique, interspécifique, entre nature et nature humaine, en fait. Et Jacques, je voulais vous en rebondissant, et puis après, je poserai une question semblable à Loïc. Pourquoi a-t-on ressenti le besoin de distinguer à un moment la nature humaine de la nature tout court, de jouer sur cette ambiguïté, on appartient à la nature, mais on est différent, on est les humains, la nature humaine, de convoquer la nature pour dire « Oh non, mais c'est pas grave, c'est dans sa nature », d'en trouver une explication pour les actes les moins qualifiables. Qu'est-ce qui fait que notre intelligence, notre bonne intelligence, a fait qu'on joue sur l'ambiguïté, on appartient, on n'appartient pas à la nature ?
Il faudrait sans doute s'appuyer sur ce que vous venez de dire. Hein. C'est-à-dire que la longue histoire des idées est même un peu, évidemment, encore plus compliquée que la manière dont vous l'avez résumé, parce qu'il y a eu Oui, oui, il faut le faire basique, mais c'est vrai qu'il y a des éléments dans lesquels l'homme se comprend comme un élément de la nature, et c'est souvent des sentiments religieux qui sont liés à ça, ce qu'on appelle l'animisme. Au fond, tout est divin, Dieu est dans tout, et moi j'appartiens au tout, je suis moi-même Dieu. Enfin, et, alors, est-ce que c'est de l'harmonie? Pas toujours. Mais en tout cas, il y a cette espèce de mise sous cloche de l'homme comme étant un élément. Et puis arrive, et vous avez raison de le rappeler, arrivent des mouvements religieux qui sont plutôt occidentaux, qui ont tendance à dire, d'une part, la nature n'est pas divine, ça c'est le premier élément, et qu'il y a un Dieu au-dessus, et là c'est n'est qu'une création, mais au sein de cette création, il y a nous, les humains. Et c'est vrai que la Bible, de ce point de vue-là, a des propos tout à fait clairs. C'est pas qu'elle n'est pas du tout écologiste, mais l'être humain a une conscience de lui-même tout à fait particulière, parce qu'il a une étincelle divine particulière en lui. Et là, il faudrait reboucler sur la conscience, sur l'intelligence, dans une vision, on dirait un peu religieuse ou théologique. Où les choses se compliquent, c'est que devenir maître, comme maître et possesseur de la nature, puisqu'on a, c'était un petit peu sous-tendu, ce n'est pas, comment dirais-je, une revendication religieuse, mais une revendication anti-religieuse. C'est Descartes qui le dit au début du XVIIe siècle, mais le disant, il fait très attention parce qu'il peut se trouver accusé par les religions de dire des choses pareilles. Donc on est dans une situation de « je t'aime, moi non plus ». Enfin, je veux dire par là qu'on part bien d'un concept. L'homme est un élément particulier de la nature, mais Descartes, tout en refusant la religion, va encore plus loin en disant « mais on doit devenir comme maître et possesseur de la nature ». C'est au XVIIe siècle et dans le même moment, ce qui est, les idées c'est toujours compliqué, au même moment, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est Galilée, c'est Copernic, c'est la révolution, la première révolution scientifique, donc astronomique, où on se rend compte que la Terre n'est qu'un élément parmi d'autres. Et donc, c'est presque par réaction contre le fait que, eh ben non, l'homme, c'est qu'un élément dans une grande, un monde infini, que l'homme dit, ben, je vais devenir malgré tout maître et possesseur de la nature. Donc, il y a une revendication, un orgueil qui est encore plus important, mais qui part effectivement de dimensions religieuses. Alors, c'est pour ça que dans votre analyse, je pense qu'aujourd'hui, ce que vous disiez comme étant, il est naturel d'être, comment dirais-je, amant de la nature. Non, ce n'est pas du tout naturel pour nous occidentaux, parce qu'on a ce que vous avez dit, on a cette longue tradition cartésienne, en particulier en France, où vraiment il s'agit d'être comme maître et possesseur de la nature. Et il a fallu attendre le 19e siècle, il a fallu attendre les romantiques pour qu'on ait on redécouvre une autre manière d'être en lien avec la nature. Le romantisme a aussi ses limites, bien sûr. Et que petit à petit, à la fin du XXe siècle, on se dise, mais il y a une autre manière d'être en lien et nous appartenons à la nature, au milieu de tout ça, et j'oublie Darwin en passant, et puis un petit clin d'œil quand même à mes attaches professionnelles. N'oubliez pas, quand les hommes ont commencé à prendre un peu de recul par rapport à la Terre, pas seulement par rapport à des engins automatiques, mais eux-mêmes, vous avez tous en tête, je pense, la vision de la Terre vue par les missions Apollo, c'est quand même un moment unique dans l'histoire où l'homme a la Terre devant lui. Et comme par hasard, parce que ça relève du hasard ou de la coïncidence, au même moment, des mouvements écologiques prennent racine en s'appuyant sur la science, en appuyant sur la politique, en s'appuyant sur la pensée pour dire « Attention, cette Terre, c'est notre planète, elle est unique, il y a peut-être 17 milliards d'autres planètes, mais on n'est pas dessus. » Donc c'est quand même assez compliqué. Voilà, c'était ma conclusion.
Elle est très jolie et elle correspond peut-être à la fin d'un titulé étrange de cette table ronde qui est « Et le reste, une autre manière ». Et justement, Loïc, tu faisais remarquer à juste titre tout à l'heure qu'il y a une autre manière, le reste de penser ce problème. Et qu'est-ce qui fait, par exemple, que dans tes intérêts qui sont profonds pour la nature et les autres vues, tu peux rechercher autre chose qu'une approche disons occidentale quoi, dans tes écrits et dans ta vie?
Oui, parce que je pense qu'effectivement correspond aussi à cette évolution, la vue de la planète de l'extérieur correspond aussi à une mondialisation des idées qui pour le coup est positive, puisqu'on peut accéder aux pensées, aux idées d'à peu près tout le monde, des Maasai, de tous les peuples de cette planète. qui n'ont pas perdu forcément, eux, leur lien profond avec la nature, on peut y accéder très facilement. Je pense que ces idées se répandent aussi dans notre société et que, pour le coup, ce sont peut-être ces sociétés qu'on a longtemps considérées comme arriérées, qui finalement nous ramènent des idées qu'on redécouvre aujourd'hui, puisque l'écologie, finalement, c'est quelque chose de très basique hein, pour des Guarani qui devaient préserver leur environnement sous peine que la tribu disparaisse. Donc il y a sûrement oui, des leçons à apprendre dans ces peuples, même si effectivement la nature était aussi considérée comme quelque chose de dangereux, hein, pas uniquement, j'aime bien évoquer les deux, mais un paysan aujourd'hui vous le dira, la nature peut être terrible et peut être bénéfique puisqu'elle va nous apporter à manger, mais elle peut aussi tout détruire. Je reviens juste un instant à ce que disait Neil tout à l'heure sur les prédateurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre dans la peau, non pas du prédateur, mais de la proie. Et on oublie souvent d'y penser. C'est-à-dire qu'au moment où on va se rendre compte de la puissance de la nature, des gens qui ont été victimes d'animaux sauvages en tirent une expérience très profonde quand ils ne sont pas décédés. C'est quelque chose de très fondateur. Donc je me souviens, j'ai fait beaucoup de voyages quand j'étais jeune avec mon sac à dos, avoir été chargé par un éléphant, c'est quelque chose qui nous remet au ras du sol. On n'est vraiment plus rien du tout et on ne voit plus du tout la nature de la même manière. Hein. Donc on est la proie en fait. Et ce qui m'intéresse dans Hystérésis ou dans d'autres romans, c'est de me projeter dans le futur. Je crois qu'on ne va pas tarder à connaître ce sentiment, mais je suis désolé de le dire, de manière un peu massive, le réchauffement, on ne va pas y échapper et il va nous faire mal. Donc j'essaye de me projeter dans le futur, dans la tête de ces gens qui auront connu cette puissance, en fait, et comment ils vont percevoir notre époque, mais aussi des nouvelles relations avec la nature, en m'inspirant, par exemple, de ce qui peut effectivement exister dans d'autres cultures.
Bien, c'est terrible, c'est passé une vitesse monstrueuse. Alors, déjà, je voulais remercier Lionel Davout qui très chaleureusement est venu apporter son soutien s'il y avait besoin. Merci beaucoup, Lionel. Un très bon auteur, je vous le conseille. Et je vous propose, durant les minutes qui nous restent, de poser des questions. Il y en a forcément beaucoup, vu le parterre de qualité que nous avons.
Oui, bonjour. Donc, je voudrais rebondir un peu sur ce qui a déjà été dit sur la religion par rapport à l'approche de la nature de l'être humain telle qu'il est décrit dans la Bible notamment. Donc déjà, on retrouve effectivement au début dans la Genèse la notion comme quoi l'être humain aurait le pouvoir donc, de dominer la nature, aurait été placé donc, au-dessus des animaux, des végétaux, tout ça. Mais en même temps, on remarque l'être humain, sa spécificité, c'est qu'il aurait été, donc, comme on l'a dit, créé à l'image de Dieu, donc en quelque sorte doté d'un sens de la responsabilité et du respect, justement, comme on l'a évoqué dans la conférence, qui pourrait lui permettre de gérer ses ressources, peut-être d'avoir une capacité de réflexion que n'auraient pas éventuellement d'autres espèces animales, et donc une capacité de gestion. Et c'est... En même temps, je pense, quand on dit que l'être humain dans la Bible est appelé à dominer la nature, ça serait finalement à apprendre surtout à la respecter dans son utilisation. Et ça, on le retrouve également cette notion au niveau du Deutéronome, donc vers la fin du chapitre 20, il me semble, si je me souviens bien, on a un verset assez ambigu qui nous dit que l'être humain serait finalement semblable à l'arbre des champs et donc c'est pour cela qu'il doit respecter l'arbre des champs et ne pas le détruire. Et on retrouve aussi en même temps la nature, comme on a dit à la fin de la conférence au niveau des psaumes, là vraiment envisagée comme quelque chose qui nous surpasse largement et dans lequel on est vraiment... pratiquement infime, quand notamment la voix de Hachem, de Dieu, donc, est comparée à la voix des océans, au souffle dans des tempêtes, tout ça, où on voit vraiment la puissance de la nature qui serait largement au-dessus de l'être humain. Donc finalement, on se rend compte que la Bible, quand on l'étudie de près, donne une image du rapport à l'être humain et la nature qui est très nuancée et très intéressante, je trouve, à étudier d'ailleurs.
C'est moi qui est OK, je vais bien répondre. Je vois que vous avez une grande connaissance de la Bible, c'est très bien. Et je pense que, de toute façon, la Bible n'est pas le fait d'un seul auteur. Hein. C'est quand même, il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui ont contribué. Et qu'effectivement, il s'y trouve toutes ces nuances. Et donc, y compris du respect de l'homme pour la nature. Et en fait, tout à l'heure, quand je parlais de siècles de morale judéo-chrétienne qui ont impliqué que l'homme domine la nature, et aussi de cartésianisme, comme vous l'avez judicieusement corrigé. J'évoquais évidemment pas tant la Bible elle-même, ni aucun texte fondateur d'ailleurs, puisque on peut dire la même chose du Coran, de la Torah peut-être, du Yiking, de tous les textes fondateurs des grandes pensées de l'humanité. Après, c'est l'interprétation qu'on en fait et la société qui s'est créée là-dessus. Et donc, ce n'est pas tant la Bible elle-même que la morale religieuse qui s'en est ensuivie, qui s'est établie notamment au Moyen Âge et qui est devenue extrêmement contraignante à la fois pour la nature, mais également pour l'être humain. Quoi. Voilà. Enfin, on peut...
Oh, maybe I say this in English. Oh, peut-être pas. Tout son existe, c'est réel. C'est rien qui existe, c'est pas réel. Ouais. La nature, la vraie nature, c'est tout qui existe. Des animaux, des étoiles, de l'univers, tout ça. Ça existe, c'est naturel. À mon avis, Greg Benford dit une chose d'un homme. Il est un amateur de le dualisme cartésien, et pour cette raison, il ne trustait pas. Tout qui existe, c'est la nature. C'est rien d'autre chose. C'est pas de nature, le vrai nature. La question profonde, c'est notre relation d'autres niveaux de nature, des animaux, de quoi. Mais l'idée qui existe en clivage dans... quoi? Dans la nature, la surnature, la supernature, ça c'est bullshit. Tout qui existe sont réels. Et tout qui sont réels, ça c'est la nature. La question morale, c'est, en tableau, à mon avis, comme ça, c'est qu'est-ce que le niveau de conscience. Je ne sais pas, de l'insecte, de le reptile, de le mammifère, ou primate, nous, ou une chose plus grande de nous. Ça, c'est la vraie question. Pas, c'est pas en différence dans une chose naturelle et surnaturelle. Tout, à mon avis, qui existe, c'est la nature. Waouh! C'est rien d'autre chose. Peut-être nous ne connaissons pas le vrai grand Dieu de la nature, d'un univers comme ça, avec 17 billions de milliards de planètes et beaucoup plus milliards de galaxies, et peut-être beaucoup milliards d'univers multiplex dans le grand univers, nous sommes des animaux dans un petit planète, dans un petit système solaire, avec des circulaires dans peut-être une étoile ordinaire, dans une galaxie, dans beaucoup billions de galaxies. Et tout ça, c'est la nature, c'est un grand Dieu. Ce n'est pas contre la Bible ou contre la religion ou choses comme ça. C'est un grand Dieu dans une taille, dans un niveau. C'est stupide pour nous de croyants que nous avons toute l'intelligence dans un univers comme ça, avec un grand Dieu, c'est ça. Et ça, c'est pas une mauvaise chose, ça, c'est une bonne chose, à mon avis.
Je crois que c'est une remarquable synthèse de cet intitulé étrange qui était « Vivre en bonne intelligence avec la nature, l'univers et le reste ». Donc, c'est la nature, point barre. C'est parfait comme fin. Hélas, nous arrivons exactement à l'heure. Donc, je vous remercie beaucoup et je remercie nos intervenants.